saranno.
Ok, c'est parti. Alors, oui.
Tu disais qu'on était totalement à l'arrache.
Totalement à l'arrache, bah, preuve en est. Mais ça n'empêchera pas la qualité, comme d'habitude. Donc, aujourd'hui, on n'a pas d'invité, malheureusement. Mais c'est pas grave, on va quand même vous parler d'informations. Parce qu'on est quand même là pour ça. Et on va faire commencer par notre petit tour du monde habituel, en passant par les États-Unis, la Chine et par un nouveau monde qui s'appelle le web. On va partir sur les infos nationales avec Notre-Dame-des-Landes et puis le procès totalement politique en fait que les copains ont subi, la grève à ITD. On va parler de la question en fait de la formation des surveillants sur la question de l'islam et des attentats terroristes. On va faire écouter plusieurs témoignages. Et on va parler d'environnement sur la question du charbon. De façon plus locale, il y a une grande grève, un grand mouvement très intéressant d'occupation des écoles pour les relogements des familles. Si on va parler d'un policier fétichiste des pieds, d'un appel à bénévoles pour la fête des Lumières, et pour finir, les problèmes des overdoses dans les boîtes de nuit.
Bon. Donc à l'international, vous le savez peut-être, Donald Trump a été élu. Ouais. Et donc du coup, c'est du sensationnel. Hein, on nous bassine avec ça sur les médias tout le temps. Et puis il paraît que c'est la grande nouveauté. Donc Trump, on rappelle qu'il a fait carrière dans le bâtiment et puis aussi à la télé-réalité. Et donc là, c'est la télé-réalité qui devient réalité. Mais on peut toujours se poser la question, que devient la réalité? Donc, on a d'un côté les annonces de campagne du personnage, le contexte international piloté par les États-Unis, et les premières démarches qu'il a entreprises, la nomination notamment des 4000 fonctionnaires ou fonctionnaires, où on nous serine que finalement, il donne à manger à la chèvre et au chou, et qu'il contente les nationalistes, les suprématistes, le Ku Klux Klan et les gros richards du monde des affaires, les apparatchiks des républicains, et qu'en fait il va faire ce qu'il a fait toute la campagne, suivre où souffle le vent et saisir ce qui marche, notamment au niveau populiste, sensationnaliste.
Oui, il a déjà fait ça pendant toute la campagne, voilà. De revenir régulièrement sur des propositions qu'il avait faites.
Donc c'est surtout ça, c'est du populisme, ce qu'il fait, du nationalisme, du racisme, du sexisme. Et Trump, on peut dire que c'est l'extrême droite quand même. Et il n'y a pas qu'aux États-Unis malheureusement. Hein. On a aussi aux Philippines par exemple, où il y a Duterte, en Hongrie avec Orban, en Russie avec Poutine, en Arabie Saoudite, en Iran, au Congo, enfin un peu partout sur Terre, en Israël également. Donc Trump, l'extrême droite, c'est quoi? Ben, c'est pas une nouveauté justement, c'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel aujourd'hui. Et c'est le renforcement de tous les arbitraires. Donc on a à l'échelle de la planète un renforcement de l'arbitraire, qui est celui du capital, qui est celui de l'argent, qui partout où il s'impose déjà et partout où il nuit, où il nie déjà, bah, se renforce. Donc la dynamique générale, c'est le renforcement du nihilisme, qui fait de l'argent la valeur de toute chose, et qui donne à toute chose justement la même valeur, celle de l'argent. Donc en France, ça doit nous inquiéter. Parce que c'est le renforcement de tous les chefs, et ça doit nous inquiéter, comme tous les chefs prennent au-dessus de nous, le renforcement de la police, du contremaître, du chef de service, etc., qu'il s'agit de combattre encore et toujours, maintenant, ici. Donc si jamais Trump, ça vous a rendu un peu malheureux, plutôt que de faire comme d'habitude, attaquer votre chef le plus proche.
Alors, dans la logique internationale, il y a la Turquie. Donc, on a un journaliste français qui s'appelle Olivier Bertrand, qui a été arrêté récemment et qui vient d'être relâché. Donc, ce journaliste, qui est pour le journal Les Jours, qui est un ancien de Libé, a été arrêté pour simplement, si j'ai bien compris, il n'avait pas demandé le droit de. Il n'avait pas forcément contacté les autorités pour faire son reportage. Donc il a été arrêté sans raison valable, expulsé. La France a quand même mis plus de 2 jours à réagir à ça, à admettre que c'était pas cool qu'on arrête des journalistes. Et heureusement pour lui, il était français, donc il y a quand même la diplomatie qui l'a permis de le sortir de là. Mais ce que ça révèle, c'est le climat politique en Turquie, qui est une véritable catastrophe à l'heure actuelle, où en fait notre cher dictateur local Erdogan est en train de développer sa mainmise sur l'ensemble des pouvoirs, sur la presse, sur la radio, la télé, dans des journaux qui sont fermés, des télés aussi, des milliers d'opposants politiques arrêtés, peut-être dans des camps, on attend, on verra bien, de toute façon il faudra bien qu'il en fasse un jour quelque chose.
Il a libéré les criminels pour interdire.
Super, il dégage, il sort les criminels pour mettre les opposants politiques, c'est pas mal. Bon, même si après la notion de criminel c'est un autre débat, mais bon, c'est quand même bien sympa. Et donc oui, donc c'est de la preuve, enfin on peut en tout cas qu'espérer que cette arrestation-libération va faire en sorte que la communauté internationale et que tous les militants vont se réveiller, vont regarder la situation en Turquie qui devient de plus en plus une véritable dictature, plus ou moins religieuse en plus.
Donc pour suivre avec le nationalisme comme technologie de pouvoir et comme résolution de la crise de l'impérialisme capitaliste, ce qui est assez marrant avec la dynamique Trump, c'est la réponse des autorités chinoises qui ont expliqué que si jamais Trump faisait du protectionnisme et taxait les produits chinois, développés, marketingués, et sponsorisé par des boîtes américaines, beaucoup, quand c'est transporté également, ou des boîtes européennes, il menace de suspendre les livraisons ou la fabrication de l'iPhone. Donc, catastrophe. Bon, il parle très peu, par contre, de la satisfaction que la politique militaire trumpienne elle peut peut-être apporter à la Chine avec l'évacuation de la mer de Chine, et la reconnaissance de certains de ses intérêts impérialistes sur la mer du Japon. Et vu qu'on ne sait pas trop encore ce qu'il pense de la Corée du Nord, c'est peut-être un tournant aussi de ce côté-là.
Je suis pas sûr qu'il sache lui-même ce qu'il en pense.
Ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même pas mal de journalistes et d'étrangers qui expliquent que la Corée du Nord n'est pas forcément la plus réticente à des tentatives de réunification avec le Sud. Et que les États-Unis, en tout cas, ils sont vraiment pas favorables. Et qu'ils n'ont jamais œuvré dans cette voie-là. C'est quand même un des endroits les plus militarisés du monde encore aujourd'hui. Et de savoir que les États-Unis vont peut-être pas continuer leur politique actuelle, ça peut augurer de certains changements. Donc en Chine, bah, en Chine c'est Trump aussi, hein, mais ça fait un peu plus longtemps, je crois que ça dure. Donc c'est, la montée du nationalisme là-bas, c'est pas nouveau. Donc ça se fait contre le Japon, contre les exactions en Mandchourie, ça se fait contre la Corée du Sud aussi, ça se fait contre les peuples autochtones, contre le Tibet, et puis finalement contre tous ceux qui veulent s'opposer à la puissance de l'État. Donc la vraie info, c'est surtout qu'au niveau de la politique économique, il n'y a absolument rien qui est dit de concret, il n'y a absolument rien qui est transparent. On peut parier que ces États impérialistes, ils vont s'entendre en fait sur la meilleure manière d'exploiter encore les populations, et que s'ils doivent se disputer, ça sera sur les rentes et les miettes qu'ils donneront à leur population pour financer aller peut-être un peu de retraite en Chine et un reliquat de sécurité sociale aux États-Unis. Viva.
Et bien du coup, on reste à l'international.
International et ce monde magnifique, le web. Sur les piratages, des sites bizarres.
Ah ouais, j'avais oublié.
Attends, c'est un peu l'info de la journée.
Et donc voilà, donc, il y a une info super. Comme quoi, l'Internet a plein de vertus. Notamment celle d'obliger les gens maintenant à réfléchir quand ils s'inscrivent sur des sites de cul, de rencontres ou échangistes. Parce qu'il y a un super site qui s'appelle Adult Friendly Finder, je crois, quelque chose comme ça.
Ouais.
Pardonnez l'action. Où ils ont apparemment piraté plus de 400 millions de comptes avec des informations telles que la taille du clitoris, la profondeur des narines et des oreilles et plein d'autres détails croustillants. Donc ça nous rappelle quand même que le web est une vaste entreprise de destruction psychologique des sociétés, et où les gens, on critique les fichiers, on critique la surveillance généralisée de l'État, on critique assez peu les changements moraux, idéologiques qui accompagnent Internet, et le fait que les gens se fichent eux-mêmes.
Surtout concernant la largeur de leur narine.
Voilà, par exemple.
Ça devient un peu inquiétant.
Et que personne, en fait, hésite à s'étaler, à se mettre en danger sur le net, en partant du principe que le marché a vocation à être confidentiel, à sécuriser la vie privée des gens. Et en fait, on se rend compte que tout ce que vous mettez sur le net, y compris les rendez-vous à votre voisine pour tromper votre femme, ou alors, je sais pas, toutes les saloperies que vous pouvez faire, en fait, tout le monde va être au courant, donc allez-y, hein, montrez-nous tout.
C'est vrai qu'on parlait la semaine dernière et la semaine d'avant du fichier TES qui va regrouper toutes les informations contenues dans nos papiers d'identité, que ça soit passeport et carte d'identité. Mais il ne faut pas oublier que tout ce qu'on donne aux différents géants de l'industrie du web, qui est une industrie capitaliste particulièrement florissante, toutes ces données-là, elles servent des intérêts économiques et politiques qui nous dépassent. Donc c'est pas mal d'être prudent.
En parlant de prudence, en parlant de bêtises,
attendez, je recommence en allumant le micro, il paraît que ça marche mieux. Donc, la cour administrative de Nantes a quand même un truc assez magique, a pris le contre-pied lundi des conclusions qui avaient été faites une semaine plus tôt à l'audience par sa rapporteuse publique. Donc en fait, les tribunaux se contredisent maintenant. Donc oui, je vous parle en fait de Notre-Dame-des-Landes sur le recours qui avait été fait sur les différents arrêtés, notamment sur la question de l'eau, différents arrêtés que les opposants avaient demandé la suspension parce que en fait c'était du grand n'importe quoi c'est du grand n'importe quoi en fait. Les trucs ont prouvé scientifiquement que notamment il faudrait totalement bousiller les terrains en mettant des mélanges de chaux, de ciment pour pouvoir stabiliser le sol pour que les avions puissent atterrir. Enfin, que l'eau allait entièrement polluée et qu'il allait polluer trois bassins versants. Enfin, c'était du grand n'importe quoi de A à Z. Mais ce magnifique tribunal a invalidé tous ces recours en disant que non, que tout ça c'était bon, qu'au final l'eau on s'en foutait et que c'était pas grave. Que cet aéroport, au contraire, présentait un intérêt public majeur pour le développement du Grand Ouest et qui aurait besoin, selon eux, d'un magnifique aéroport international pour pouvoir se développer économiquement. C'est sûr que faire une heure de train, voire deux depuis Paris, ça change des masses. Et donc la rapporteuse publique a quand même précisé que Le projet défendu par les opposants de transformation de l'aéroport qui est là à l'heure actuelle, qui possède aussi une piste unique, est exactement le même qu'on peut avoir à Genève, à Stuttgart en Allemagne ou à San Diego aux États-Unis. Donc en fait, pour les juges locaux, c'est la ville de Nantes est quand même plus importante et aura plus de trafic que Genève, que Stuttgart ou San Diego. Honnêtement, je plains Nantes si ça arrive un jour, parce que là, c'est en millions de personnes qui débarqueraient, qui viendraient saccager cette ville. Et donc, voilà. Donc, dans les faits, donc la justice a, hélas, une fois de plus prouvé qu'elle pouvait être entièrement politique et s'est entièrement pliée contre l'avis technique de ses propres instances pour, du côté du patron, des patrons et de cette magnifique boîte de construction, du côté de l'État aussi qui veut construire cet aéroport. Donc là, un nouveau recours va être fait pour invalider ce précédent recours. On espère cette fois qu'on aura des juges qui feront leur boulot, en fait, tout simplement. Qui jugeront sur le fond de l'affaire, sur la question technique et pas du tout sur la question politique. Et voilà.
Bon, surtout que si c'est pour dans quelques mois se retrouver avec Vinci, propriétaire de l'aéroport, l'État, ouais. L'État devrait penser à arrêter à se calmer un peu. Du coup, pour continuer un petit peu, oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez cette vidéo qui avait été publiée pendant la loi travail, pendant le mouvement contre la loi travail, où un lycéen se faisait proprement tabasser par un flic devant son lycée. Donc c'était le 24 mars 2016. Donc on y voit un lycéen qui est extrait de la foule par des policiers, donc ils sont tous en tenue anti-émeute. On le voit d'abord par terre, entouré donc de trois flics. Un autre tient éloigné ses camarades de classe. Donc c'est après un blocage, hein. Ils avaient mis deux, trois poubelles devant le lycée. Et donc nos amis de la police lui somment poliment, comme à leur habitude, de se lever. Donc en gros, ils lui gueulent dessus, lève-toi, lève-toi. Ils le tirent, ils le soulèvent par les aisselles. Donc il se relève, il est calme, il a l'air un peu sonné, donc on ne voit pas le début de la vidéo, mais je pense qu'il devait déjà avoir pris quelques coups. Et donc il se relève, et là d'un coup, bam, il se prend une grosse mandale d'un des trois. Ouais, une bonne grosse mandale, ça l'allonge direct. Le gamin, il se retrouve par terre en deux secondes. Donc ces images avaient pas mal tourné, elles ont été filmées par un téléphone portable. Elles sont vraiment sans équivoque, hein. On voit bien qu'il n'y a aucune résistance de la part du lycéen, qu'il ne proteste pas, et effectivement il a l'air un peu sonné, quoi.
Sonné, il a le nez cassé, il part à l'hôpital,
quoi. C'est une véritable réalité, hein. Un nez cassé, un transport hôpital, des ITT.
Tu peux arrêter de me spoiler, s'il te plaît.
Désolé.
Non, mais pas de soucis.
Spoiler le passé, je ne pensais pas que c'était possible. Oui, allons-y.
Non, mais voilà, on voit bien que la patate est complètement gratuite. Bon, en fait, en vrai, hein, pour qui est un peu habitué des confrontations avec les flics ou simplement de croiser des flics,
la patate
est
toujours gratuite, hein.
C'est vrai.
Moins cher.
Mais voilà, quoi. Si t'as pas la bonne gueule ou que tu traînes un peu trop en manif, tu sais qu'en réalité, ça arrive souvent, ce genre de choses.
Tout le temps.
C'est pas toujours filmé et encore moins suivi de poursuites judiciaires. En l'occurrence, les images avaient vraiment beaucoup tourné. C'était un moment où le mouvement avait bonne presse, on va dire. Donc ça avait fait un peu scandale, y compris dans la presse mainstream. Pour tout dire, Bernard Cazeneuve himself avait versé une petite larme. Donc le flic, dénommé Sofiane, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, en lieu et place habituelle des autocongratulations des flics quand il se passe ce genre de choses, s'était vu placé en garde à vue quelques jours plus tard. Il y avait aussi eu quelques caillassages de comicos alentour dans les jours qui ont suivi. Il y a, sur la même journée, devant le même lycée, il y a un autre flic, hein, qui est poursuivi pour des violences commises le même jour devant le même lycée. Donc je pense qu'ils sont partis en intervention super déter et super chaud. Et donc pour l'affaire là qui nous intéresse, la victime a quand même eu effectivement le nez cassé. En plus, a priori, c'est pas opérable parce qu'il est encore en pleine croissance. Il a été en cours pendant 12 jours. Enfin voilà, il a quand même... sans parler de la peur que du coup ensuite t'inspirent les flics. Et donc voilà, fait rare quand on connaît le nombre de violences policières qui ont eu lieu pendant le mouvement, mais qui ont aussi lieu tous les jours. Ce jeudi 10 novembre, le fonctionnaire de police, donc boxeur à ses heures perdues, comparaissait devant le tribunal correctionnel pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Donc effectivement, après la mise en ligne de la vidéo et le scandale qui avait été suivi, notamment dans les médias, mais y compris de différents personnalités politiques qui s'étaient un peu insurgées. Donc l'IGPN avait ouvert une enquête. Alors, pendant le procès jeudi, donc outre les protestations classiques, c'est pas ma faute, au moins je savais pas que c'était mal de taper, en plus les lycéens étaient très 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 méchants, c'est vrai qu'ils lançaient de la farine. Donc le policier a souligné quand même son manque de formation, qu'il n'avait pas du tout l'habitude d'intervenir dans un de cas, et les effectifs insuffisants, donc on doute pas effectivement qu'ils sont souvent jetés comme ça, mais pour revenir un peu sur les faits, il a quand même aussi prétendu que la farine était enflammée.
Évidemment.
Voilà. Magie nouvelle. Ce à quoi le juge a quand même répondu, mais ça ne brûle pas la farine. Donc voilà, pareil, il a prouvé sa bonne foi en rappelant qu'il savait que la scène pourrait être filmée. Donc vraiment, il ne l'a pas fait méchamment, puisqu'il savait qu'éventuellement, il pourrait être poursuivi. On reste dubitatif, puisque... On sait que c'est des pratiques courantes en fait chez les flics, dans nos manifs, dans la rue, tous les jours, dans les quartiers populaires. Et voilà, qu'on n'a juste pas toujours la chance que ce soit filmé.
Dans les commissariats.
Dans les commissariats, c'est clair. Et surtout, en fait, que les IGPN se saisissent de l'affaire. Parce que là, il faut être lucide, hein, c'est la viralité de la vidéo qui a fait que l'IGPN a ouvert une enquête.
Et le côté assez anecdotique de la violence, malheureusement.
Puis la farine.
Oui, c'est vrai qu'il y avait des circonstances aggravantes.
Le lobby des boulangers doit être derrière. Attention.
Donc bon, comme on sait bien que justice et police savent quand même, malgré cette enquête exemplaire de l'IGPN, hein, mais on sait bien que la justice et la police savent quand c'est opportun bien resserrer les rangs et défendre l'intérêt de la classe qui est la leur dès lors qu'ils la sentent menacée. Donc voilà, comme d'hab, dans les procès de flics, le parquet s'est montré particulièrement conciliant avec notre héros boxeur. Donc pour les violences, le procureur a demandé 6 mois de sursis et une non-inscription au casier judiciaire pour qu'il puisse continuer d'exercer. Donc on est content parce que on avait un petit peu peur qu'il puisse plus être dans les rangs de la police et de pas pouvoir le croiser tranquillement quand on bloque notre lycée.
Ce qui veut dire que demain, il y aura de la farine partout.
On se souvient quand même que pendant le mouvement contre la loi travail, à Lyon, par exemple, il y a quelqu'un qui avait été arrêté à l'issue de la manif sauvage qui avait eu lieu contre le 49-3 et qui est accusé d'avoir jeté un caillou sur un poste de police. Donc, violence... ayant entraîné 0 jour d'ITT pour le dit commissariat. Et elle a quand même été condamnée en première instance à 6 mois de prison avec sursis, donc ce que le parquet demande pour le flic, là, et 14 000 euros de dommages et intérêts. Mais le parquet a fait appel parce que la peine n'était pas assez élevée, quoi. Donc voilà, les procureurs de la République ont la violence à géographie variable. On pense aussi aux camarades qui ont pris de la prison ferme pour avoir secoué une voiture de la PAF. Ou du sursis, juste pour avoir eu un bâton, place Bellecour. Voilà, comme d'habitude, hein, c'est la justice de classe qui défend et protège ses intérêts.
Après, avec le taux de chômage, on va quand même pas mettre un policier au chômage. Ça fait un chômage en plus, c'est toujours...
C'est pas faux. Tu n'as pas tort, oui.
Bah, c'est le contexte, en fait, qui dicte les peines.
C'est sûr. Et la conclusion, bah, comme d'hab, c'est que... la justice, elle renforcera toujours l'ordre, même quand il ne respecte pas ses propres lois.
Voilà, donc c'est un bon exemple avec les manifestations de policiers hein, qui sont pas définitivement terminées, malheureusement. Et voilà, liberté de se faire taper dessus, liberté de fermer sa gueule et liberté de la presse. Donc vous savez qu'à Radio Canu, on a rencontré quelques injustes.
10 injustice.
Voilà, mais comme les 7 milliards et demi d'êtres humains qui vivent en permanence l'injustice, justement. Et on a des confrères de la petite presse que vous connaissez peut-être pas trop, d'une chaîne de télévision qui s'appelle iTélé, qui sont en grève. Et depuis, je crois, 26 jours, ce qui est la plus grande grève à la Téloche. Et donc, en fait, on voulait en parler parce qu'on les soutient, bien évidemment. Donc, iTélé, c'est un groupe de médias tout pourri où ils font des infos et de l'intox, avec au milieu de la pub, et puis où il y a des groupes d'experts autoproclamés qui explique comment il faut qu'on aille bosser plus longtemps pour payer moins, tout en fermant notre gueule et en les écoutant. Ouais, enfin, moi, je ne sais pas, mais...
Un joli programme, quoi.
Voilà, c'est ça. Mais quand même, pour faire tourner ces chaînes dégueulasses, avec la musique bien fort, les petits bandeaux, les gros spots qui apparaissent, tout doudou, avec les dents de la mer qui passent derrière...
Les stagiaires suffisent pas.
Les stagiaires suffisent pas. Enfin, pas tous.
Même s'ils savent très bien faire les requins.
Voilà. Alors les stagiaires ne se filent pas, et à iTélé, ils sont en danger d'agression, d'accord, puisqu'ils viennent d'embaucher un chroniqueur qui est sous le coup d'une interdiction de fréquenter des mineurs à son travail. Donc déjà les stagiaires, ils n'ont pas le droit d'être là.
Et donc, du coup, parce que tu penses qu'aux stagiaires de 3e.
C'est vrai. Donc il y a tout un petit artisanat du bourrage de crâne qui devant trop de trompitude, de vulgarité et surtout devant l'embauche d'un délinquant sexuel qui a fait le scandale il y a un mois, ont décidé de se dire que peut-être qu'ils n'étaient pas prêts à toutes les compromissions, à toutes les collaborations et que quitte à semer la merde et quitte à se faire les chantres de Bolloré, ils voulaient des conditions de travail meilleures, ils voulaient être respectés, ils voulaient un minimum de garantie sur leur métier, qui reste quand même de raconter des bobards à la population.
Puis ils voulaient pas d'un agresseur dans leur rang.
Et ils voulaient pas non plus qu'il y ait un violeur nationalement connu qui s'en vante, qui vienne travailler avec eux, quoi. Donc les problèmes ils sont multiples, hein. Il y a Morandini, il y a les conditions de travail et il y a la liberté de la presse. Donc la liberté de la presse, parlons-en, hein. Ça fait bien environ, je sais plus en fait, je me rappelle plus depuis quand la presse n'est pas libre. Ce qu'on sait c'est que on se rappelle des manifestations Charlie où ils ont tous crié à Arnaud, on nous tue la presse, on nous tue la presse. Les Bolloré, les Hersan, les Tapie, les Lagardère, les Nips, etc., etc. Ça reste le vrai problème. iTélé, qui gagne leur grève, et qui vit en Bolloré, et qui se mettent à faire comme Radio Canu, mais mieux que moi, parce qu'on brise sa faire. Voilà.
Ouais. Infiltration.
Bonne grève, les gars, et puis lâchez rien.
On continue sur les thématiques des libertés. On voulait vous lire un témoignage au sujet de la liberté, cette fois, juste d'être solidaire. Il s'agit d'un témoignage écrit par quelqu'un qui se présente comme un simple citoyen qui a aidé des réfugiés sur sa route. Et c'est une info qui a été diffusée par le collectif réfugiés Drôme Ardèche Vaucluse. Et qui raconte le témoignage d'un homme poursuivi par la justice pour avoir secouru des réfugiés. Donc je vais vous lire juste un petit extrait de son texte qui fait bien 2 pages. Pourquoi j'ai secouru des réfugiés ? J'ai 45 ans et 2 enfants, je suis fonctionnaire à l'éducation nationale, ingénieur d'études dans un laboratoire de recherche du CNRS, Université de Nice Sophia Antipolis. Je n'étais pas jusqu'à présent militant politique ou associatif. Dans ma famille, on est corse. J'ai passé toutes mes vacances au village, dans la maison de mon grand-père, le médecin du canton, qui faisait ses visites à cheval. Au village, presque 50 ans après sa mort, les gens en parlent encore, car que ce soit en pleine nuit, à l'autre bout du canton, que ce soit un bandit blessé ou un paysan qui n'ait pas de quoi payer, il soignait. Un peu plus loin, il nous raconte. Lundi 17 octobre, sur un trajet vers Nice, je décide de m'arrêter dans ce camp pour migrants à Saint-Dalmas-de-Tende, un bâtiment désaffecté pour colonie de vacances de la SNCF, qui a été ouvert en urgence quelques heures auparavant, sans autorisation, par un collectif d'associations dont la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International et un tas d'associations nationales et locales. L'ouverture de ce lieu a fait l'objet d'un communiqué de ces associations dans les médias. Je sais bien que mon retour vers Nice est une opportunité d'en sortir quelques-uns, de ce lieu sans eau ni électricité, où la température en pleine nuit ne doit pas dépasser 10 degrés. Je décide d'en ramener chez moi et de les déposer à la gare le lendemain. Ce sont trois filles qu'on vient d'aller chercher à l'étage. Elles sont contentes car elles sont attendues par une association à Marseille pour être soignées. Quand je les vois, mon cœur se déchire, elles ont peur, elles ont froid, elles sont épuisées. Elles ont des pansements aux mains, aux jambes. L'une boite en faisant des grimaces de douleur et l'autre ne peut pas porter son sac avec sa main blessée. De quel pays elles sont ? Érythrée. Nous n'arriverons pas à Nice. Au péage de la Turbie, les gendarmes nous arrêtent et nous conduisent à la police de l'air et des frontières. Ils m'ont séparée des érythréennes. Ce n'est pas clair de ce qu'ils ont fait d'elles, mais je ne crois pas qu'elles aient été soignées. Elles auraient été renvoyées au sud de l'Italie comme ça se fait souvent. Les policiers m'ont dit qu'au moins l'une d'elles était mineure. Je n'ai pas réussi à les protéger. Après 36 heures de garde à vue, j'ai été libérée sous contrôle judiciaire. Ma voiture a été saisie ainsi que mon téléphone et je n'ai pas le droit de quitter Nice. Mon procès est renvoyé au 23 novembre 2016 à 13h30 à la même audience que Cédric Herrou, membre d'associations humanitaires qui est également poursuivi pour avoir aidé des étrangers. Le lendemain de ma libération, un jeune migrant est mort, percuté par une voiture sur l'autoroute à Menton. Il a été projeté par-dessus le parapet du viaduc et a fait une chute de plusieurs dizaines de mètres. Venu du bout du monde, perdu sur l'autoroute, est mort à 20 km de chez moi. Mon geste n'est ni politique ni militant, il est simplement humain. Et c'est signé Pierre-Alain Manoni.
Quand même un peu politique et militant derrière l'humain, avec l'humain.
Et du coup, bah, moi, je voulais parler un peu de radicalisation, parce que ça m'inquiète. Non, c'est un témoignage d'AED. Donc AED, c'est assistant d'éducation. C'est pour pas dire pion. Ça vexe les pions qu'on dise que c'est des pions. Mm-hmm. Pourtant, c'est des pions, mais bon. C'est un témoignage d'AED, de pions, qui a été publié sur Paris Lutte Info et qui m'a semblé assez intéressant. Donc, il faut savoir quand on est pion.
AED.
AED, pardon. Je confonds tout le temps. C'est... non, donc quand on est surveillant. Il n'y a pas vraiment de formation en général. Au mieux, tu as deux jours, le rectorat t'envoie deux jours t'ennuyer et te parle de pédagogie. De toute façon, en général, ton taf se résume à peu près à celui de super flic des absences. Donc, effectivement.
On peut dire pion aussi.
Pion,
oui, AED, quoi.
Ouais, surveillant. Et donc, effectivement, le rectorat ne pense pas que c'est forcément pertinent de payer des formations simplement pour surveiller un logiciel toute la journée et appeler les parents, envoyer des textos aux parents pour que l'élève se fasse disputer. Mais là, cette année, il y a pas mal de... Enfin, apparemment, à Paris, les pions ont droit à des formations, des super formations de 3 heures consacrées au thème de la laïcité et, je cite, des signes avant-coureurs de radicalisation djihadiste.
Alléluia.
Pas les autres.
Pas les autres. De radicalisation des autres, tu veux dire ?
Non, djihadiste, radicalisation.
A priori, ouais. Mais bon, je pense que c'est adaptable. Hein. Alors, de mon temps de pionica, parce que moi, j'ai été pion, on était effectivement aussi convoqués à des formations, on a parlé de pédagogie. Bon, pour tout vous dire, je ne sais pas trop ce qui s'y passait, parce que moi, j'avais trouvé la combine pour émarger et pas y aller. Donc, du coup, je ne sais pas si on nous parlait de radicalisation. Mais en tout cas, en l'occurrence, la formation incriminée, donc, qui dure 3 heures, avec 2 heures consacrées donc, effectivement à la laïcité, c'est-à-dire à ce grand principe républicain. Donc vraisemblablement, d'après le témoignage, la laïcité se résume aux valeurs de la République, c'est-à-dire si tu défends autre chose que les valeurs de la République... c'est que t'es à côté de la laïcité, donc
sectaire.
Comme mettre des crèches catholiques dans les bâtiments.
Comme balancer de la farine sur les policiers.
Et donc là, ce que la personne qui a écrit l'article explique, c'est que les exemples systématiquement donnés impliquent l'islam. Et que, voilà, on s'intéresse effectivement qu'à la radicalisation djihadiste. Alors moi, ce qui m'a fait marrer, c'est que du temps où j'étais moi-même pion, on avait eu une circulaire à un moment donné, donc c'était en 2014, de l'Académie de Poitiers, qui avait pas mal fait marrer dans les vies scolaires, mais qui avait...
Qui a déjà arrêté l'islam en 747, hein. Il faut le rappeler. Quoi.
Ils ont voulu reprendre le flambeau tranquillement, et d'après le témoignage, en gros... Alors, il faut savoir que cette circulaire, au moment où elle a été publiée, Najat Vallaud-Belkacem elle-même avait dit qu'elle était un peu maladroite, et voilà. En fait, du coup, ils ont transformé la circulaire en une espèce de formation à destination de tous les surveillants. Du coup, il y a moins de traces écrites, c'est plus facile d'endoctriner les surveillants. Donc, pour rappel, cette circulaire, donc elle rappelait que c'est un phénomène sensible, actuel, qui peut toucher tout le monde, donc sans exception, c'est-à-dire toute classe sociale confondue, majeure et mineure, des collègues de bureau, des amis, sa famille. Donc, soyez bien
tout
tous.
Le monde, tout le monde.
Son chien.
Tous très vigilants. Donc après, on avait un petit historique.
Oh merde, ça peut être des amis alors.
Oui, oui, oui. Hein, autour de toi, méfie-toi. Hein, ça peut être n'importe qui.
Ça peut être aussi des gens que t'aimes pas.
Hein. Tu t'appelles comment déjà?
Polydère.
Voilà, donc après, il y avait un petit historique de l'histoire du djihadisme, quelques chiffres que je vais vous épargner. Et surtout, arriver ensuite le chapitre sur les signes extérieurs de radicalisation.
Ah là là.
Et apparemment, donc c'est un peu ce qu'on enseigne dans ces nouvelles formations du rectorat parisien. Donc notamment la barbe longue non taillée. Donc j'en vois dans ce studio qui sont pas loin de se radicaliser.
Moustache rasée. Comment ça se passe pour les hipsters?
Ah non.
Alors c'est vrai qu'entre parenthèses, est noté que la moustache doit être rasée. Cheveux rasés, donc pareil, hein, je vois des individus suspects autour de moi. Habillement musulman, je sais pas ce que ça veut dire, mais j'aimerais bien voir ça. Jambes couvertes jusqu'à la cheville, donc là tout le monde est suspect. Refus du tatouage.
Il faut déshabiller la personne quand même avant de savoir ça.
Parce qu'il faut rentrer tous les élèves maintenant pour faire un tatouage. Et puis sont identifiés.
Ah non mais
en fait, il faut
les mettre dans des camps de concentration pour voir qu'ils refusent le tatouage. Hein.
Ou il faut faire l'amour avec chacun d'eux. Quoi. Ouais.
Non, mais ça va être drôle. Imaginez tous les lycéens I love maman sur le bras. Quoi. C'est le seul moyen de prouver qu'on n'est pas djihadiste, mais non.
Cale sur le front aussi. Alors, sachant que c'est destiné à des lycées, donc cale sur le front, ça serait le signe des cinq prières par jour. Donc, avant d'arriver à avoir une cale sur le front, il faut quand même un petit peu de temps. Et perte de poils liée à des jeûnes fréquents. Donc, c'est à peu près tout et n'importe quoi. Et ensuite, la circulaire faisait état des différents profils de radicalisation, les cinq modes de basculement. Il faut savoir que là, pour le coup, c'est le centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l'islam qui a établi ces cinq modes de basculement. Et je pense que ça vaut le détour. Donc la circulaire date de 2014, mais en gros...
C'est le discours qui est premier.
C'est ça, et qui maintenant fait l'objet de formation de la part du rectorat. Donc il y a le profil Lancelot, donc celui qui recherche le sacrifice. Le profil...
Dans mon souvenir, c'était plutôt autre chose hein, qui recherchait Lancelot.
Oui, mais vous, les gars. Sa propre recherche était un sacrifice.
Ah.
Ouais. Mère Teresa, donc départ pour cause humanitaire.
C'est-à-dire que tous les hippies sont des terroristes.
Mère Teresa, apparemment, est une dangereuse radicale terroriste. Surtout qu'elle avait un peu de barbe à la fin. Je crois.
Donc ça voudrait dire que l'État reconnaît Mère Teresa comme une terroriste islamiste. Ça voudrait pas mal.
Et Lancelot aussi. Hein, donc.
Et Lancelot aussi.
Oui, là, pour le coup, c'est pas totalement faux.
Le porteur d'eau, donc recherche d'appartenance à un groupe. Le GI, recherche de l'affrontement et du combat. À titre personnel, je me reconnais plutôt dans ce profil.
Tu peux la faire, le porteur d'eau?
Recherche d'appartenance à un groupe. Ah, ouais. C'est-à-dire un adolescent. Zeus, volonté de puissance. Donc je sais pas. Jean-Luc.
Pourquoi tu me regardes?
Tu te reconnais dans quel. Et quel profil?
Et ils ont viré
Zeus, je pense. Okay.
Ils ont viré un prof d'histoire maniaque des dieux grecs là pour faire sa petite fille.
Non mais du coup c'est quand même on en rit mais c'est quand même très inquiétant si on enseigne ça aux pions. Hein. Parce que c'est pareil, hein, la circulaire en question est vraisemblablement, c'est l'objet de la formation qui systématise maintenant. Voilà, c'est vraiment un appel à la délation permanente, à essayer de...
À l'étiquetage.
Voilà, à la suspicion.
De surveiller, surtout de surveiller les lycéens dont, enfin, et tous les élèves dont on est censé...
Et les profs, et les balayeurs...
Oui, parce que c'est le personnel aussi. Hein.
Le personnel, tout. Hein.
C'est bien, ça ne s'engage pas à la rencontre, hein, quand même.
Non, effectivement, et puis voilà, donc dans le témoignage là, qui a été publié sur Paris Lutte, et que je vous invite à lire, hein, il semble qu'ils sont vraiment, vraiment invités à dénoncer tout comportement qu'ils estiment suspect. Donc, en plus, on demande aux pions, qui sont quand même des grands précaires de l'éducation nationale, de faire un taf de super flic et surtout d'essayer d'être le plus suspicieux possible avec leurs propres élèves, quoi. Et tout ça va de pair avec des nouvelles alertes attentats qu'on oblige toutes les équipes enseignantes à effectuer dans les bahuts, avec des exercices de confinement hyper anxiogènes pour les gamins. Et voilà. Donc l'état d'urgence, a priori, c'est la meilleure assise pour absolument systématiser les délires républicains et laïcards de l'éducnat et tous ses représentants.
Et arbitraire, hein. Parce que Lancelot, Mère Teresa, porteur d'eau, G.I. Zeus, si ça, c'est pas de l'arbitraire.
Avec une imagination débordante.
Du coup, voilà, on est super contents de... Enfin, c'est plus la peine, j'invite tous les pions à ne plus aller à ces formations, puisqu'on vous a expliqué comment déceler le plus efficacement possible dans votre entourage des profils de radicalisation. Donc, c'est pas la peine d'aller à ces formations, vous pouvez leur dire que vous n'en avez pas besoin, que vous êtes au courant, que vous écoutez Radio Canu.
Et vous pouvez nous appeler pour qu'on vous donne, du coup, la technique pour émerger.
Non, le téléphone ne marche pas et quelqu'un s'est barré avec le transfo.
Ok, fausse alerte.
Bon, alors, c'est vrai que l'éducation. On en parlera après.
Bon, alors, sans transition aucune, on voulait vous reparler du climat. Au moment de l'entrée en vigueur des accords de Paris de la COP21, dont on se vante bien, 4 ONG ont fait un point sur le financement des projets d'énergie carbonée, donc soit directement des mines de charbon ou des centrales à charbon. Parce que, bah oui, l'infléchissement des financements de ces projets étant le nerf de la guerre pour lutter contre le réchauffement climatique ou au moins le limiter au fameux 2 degrés, grade à partir duquel on considère que le climat va s'emballer et on ne saura plus que faire. Ces ONG sont les Amis de la Terre, Fairtrade Finance, Banktrack et aussi une fondation polonaise intitulé Développement Yes, Open Pit Minds, Non. Vous verrez pourquoi la Pologne est dans l'histoire. Elles ont examiné les actions de 4 banques, BNP Paribas, le Crédit Agricole, la Société Générale et la BPCE. Bon, comme vous vous en doutez, les résultats ne sont pas très très bons, malgré les engagements des banques. Elles titrent d'ailleurs leur rapport « Malgré leurs promesses, les banques vont toujours au charbon ». Alors, elle note un petit point positif, parce qu'il faut quand même voilà, faire un peu de diplomatie aussi. Donc, Crédit Agricole et Société Générale qui ne financent plus de nouveaux projets de centrales à charbon, donc elles n'ont pas continué l'inflation, mais elles sont toujours dans les projets existants, notamment des projets en Indonésie et en République Dominicaine. Et surtout, donc BNP Paribas, qui est ciblé comme l'ennemi numéro un du financement des énergies carbonées, qui serait le 4e plus gros financeur du monde du charbon, avec notamment un gros projet en Pologne. D'où voilà, la sensibilité d'une ONG polonaise. Voilà, donc pour la lutte contre le réchauffement climatique, c'est mal barré, mais c'est l'occasion de rappeler aussi que le choix de sa banque, de tout un chacun, n'est pas neutre et qu'on peut tout à fait interroger son cher banquier sur sa politique d'investissement dans le monde.
Alors bon, bah, on a vu que les pions étaient radicalisés, on a vu que l'éducation nationale servait à fliquer tout le monde, à faire peur et que surtout on avait beaucoup d'argent à dépenser pour rien. Et c'est pas tout, les profs, beaucoup ont abandonné l'espoir d'avoir une liberté pédagogique et de faire un enseignement de qualité dans des structures de qualité pour des objectifs de dignité, pour l'émancipation des élèves. Et d'une manière générale, avec le délire sécuritaire, républicain, avec la transformation de tous les programmes, avec l'adoption des discours anglo-saxons sur la performativité de l'éducation, sur le culte de la compétence, de l'efficacité, et évidemment l'entrée des entreprises, des entreprises privées, des grosses entreprises privées, dans les contenus des cours, dans les formations, dans les projets, dans le pilotage des établissements, etc. Bon, on a bien compris qu'à l'école, c'est la merde, et que les mêmes qui ont fait la loi travail, les mêmes qui ont fait l'état d'urgence, les mêmes qui font le fichier à 60 millions, les mêmes qui font augmenter le chômage, les mêmes qui nous ont fait tout ce qu'ils nous ont fait depuis le temps qu'ils nous ont fait, eh bien, c'est aussi eux qui ont désingué l'école. Mais pour autant, encore et toujours, à Lyon, il y a quelques irréductibles professeurs et instituteurs qui sont puissamment et brillamment mobilisés à ces derniers temps, en faisant parler d'eux, en bloquant leur établissement, en obligeant la préfecture et la mairie à sortir du bois pour trouver des solutions. Donc on pense à Gilbert Dru.
Dans le 7e.
Dans le 7e, par exemple. Et à Vaux-en-Velin.
Barbus.
Barbus, qui aussi, c'est pas la première fois qu'ils font parler d'eux, c'est la troisième ou quatrième fois qu'ils se mobilisent dans l'année, c'est courageux, c'est volontaire, c'est bien, bravo. Et là, il y a 8 établissements scolaires qui sont mobilisés, qui nourrissent, qui logent, qui rendent service, qui informent, qui protègent des familles et leurs élèves, donc c'est un formidable mouvement de solidarité. Qui est efficace puisque ça fait parler d'eux. Alors on déplore malheureusement évidemment les autorités qui essayent de faire pourrir le truc. Hein.
Bah, Gilbert Dru, la mairie était vraiment pas contente de l'occupation, mais en même temps on voit bien que c'est le seul moyen de débloquer les situations puisque l'hébergement d'urgence a été trouvé relativement immédiatement suite à l'occupation de l'école.
Donc la préfecture et la mairie mentent en disant que en fait ils étaient prévenus de longue date et c'est tout juste. Si l'établissement scolaire et les gens qui y travaillent n'auraient pas profité en fait de la condescendance.
Sachant qu'on est presque mi-novembre.
Voilà, ouais.
Et que les élèves en question sont à la rue depuis la rentrée.
Alors ce qui est malheureux, c'est que la mobilisation de Gilbert Dru qui a été efficace, qui s'est vue sur le quartier, qui a été contagieuse, hein, parce qu'a touché les habitants à côté, qui a touché d'autres acteurs. Il y a le même type de mobilisation à Vaux-en-Velin, mais Vaux-en-Velin, c'est pas dans le centre. Donc du coup, les autorités sont encore plus lentes, encore plus réticentes à améliorer les choses. Donc bon, le service de l'État, bougez-vous, le droit, le logement est un droit, logez les gens vite.
Eh bien.
Eh bien.
Pour continuer et revenir sur nos chers schtroumpfs nationaux, on en a un beau cas localement, qu'on le veuille ou non, il faut le dire, cette personne, enfin, et ça ne sera hélas absolument pas insultant, et a des dérangés mentalement parlant. Clairement, non. Donc un policier a été jugé au tribunal correctionnel de Lyon, car en tant que fétichiste des pieds, il a attaqué, en fait, une jeune femme, près de. Alors, une jeune femme, le 28 septembre dernier, avenue Leclerc à Rieux-la-Pape. Donc, selon le Progrès, celui qui s'identifie comme un fétichiste des pieds avait couru derrière sa victime pour la rattraper et la pousser dans le hall de son immeuble. Donc il aura fallu la détermination et le courage de deux jeunes du quartier qui traînaient par là, donc il faut voir déjà comment on en parle, c'est bien, pour l'empêcher d'agir. Ils ont donc brisé la vitrine du hall et se sont jetés sur l'agresseur avant de maîtriser et d'appeler ses collègues. Donc ils ont appelé la police pour arrêter un policier fou. Donc ils ont profité, comme le rappelle la presse, pour lui administrer, je vais dire entre guillemets, une sévère correction. Et donc la justice a, pour une fois, fait son travail, plus ou moins en tout cas son travail, même si clairement on est loin des peines que d'autres personnes peuvent subir. Et une peine de 18 mois de prison dont 6 mois de sursis a été requise et donc a été appliquée contre ce policier. Donc il faut, mesdames, faites attention, ça peut être dangereux.
Après, de toute façon, pour les agressions sexistes, en général, les peines sont quand même relativement clémentes systématiquement, qu'il s'agisse d'un fonctionnaire de police ou non.
Ouais, mais là, c'est les pieds, c'est encore une exception.
C'est vrai.
On va continuer avec, avec les pions, puisque en fait c'est un peu le thème,
le fil conducteur de cette émission.
De Scanu Info. Alors du coup, oui, voilà, alors appel, avis aux chômeurs, aux gens qui sont désœuvrés, aux, aux manifestants contre le travail, là, puisqu'il ne se passe plus rien, là, si vous avez du temps.
Option radicalisée.
Option radicalisation, enfin on va en parler. La ville de Lyon recrute pour la fête des Lumières, et mieux que des pions, des bénévoles. Coûte moins cher, voilà. Et donc, c'est pour renseigner et orienter les gens pendant la fête des Lumières. Donc, le temps de 3 soirées, le 9, le 10 et le 8, le 9 et le 10 décembre, de 20h à minuit. Donc, il faut être disponible. On recommande fortement d'être disponible les 3 soirs. Ce serait un vrai plus. C'est indiqué comme ça. Il y a un formulaire sur Internet, sur le site de la ville de Lyon à remplir. Donc on demande bien sûr toutes les coordonnées, le nombre de langues étrangères qu'on parle et lesquelles. Donc encore de la surqualification. Donc il faut, pour être bénévole maintenant, il faut parler pas mal de langues. C'est la tendance. Et puis on demande si on veut recevoir la newsletter de la ville de Lyon. Non, une lettre de motivation, non, quand même pas. Mais par contre, on demande combien de langues étrangères on parle et lesquelles. et puis du coup, on demande aussi si on souhaite recevoir la newsletter de la ville de Lyon. Donc il suffit de cocher non, hein, et bon voilà.
Ou de cocher oui, enfin.
Ou de cocher oui. Bon, on espère en tout cas que les bénévoles pourront participer au ménage à la fin des soirées, parce que ça va être le chantier. Et puis c'est un gros plus sur le CV. Et aussi qu'ils pourront s'offrir une place au paradis grâce à cet acte complètement gratuit. Et puis selon les informateurs, la ville de Lyon recherchera également des bénévoles le 4 février dans le cadre d'un meeting politique à la Cité internationale.
Ah, mais dis donc, ça peut être intéressant ça. Mais du coup, donc ils proposent tranquillement de faire le travail que la ville est censée faire gratuitement, et tout ça simplement par dévouement pour cette grande liesse populaire qui est la fête des Lumières.
C'est pas précisé, mais en tout cas c'est sous-entendu. Ah, à noter pour les intéressés, un équipement adapté vous sera fourni. Donc peut-être qu'ils ont prévu des grenades lacrymo, un tonfa, je sais pas.
Et pour ceux qui n'aiment pas la fête des Lumières, il y a d'autres travaux pénibles qu'on peut faire bénévolement grâce à la ville de Lyon.
Grâce à la ville de Lyon, je ne sais pas pour la fête des Lumières. Après, il y aura sûrement des choses prévues.
Dans le cadre du service civique, peut-être, les prochaines Lumières seront organisées.
Non, mais peut-être qu'il y aura d'autres choses à faire le 8 décembre, finalement.
Il paraît qu'il va y avoir des choses à faire le 8 décembre, plus intéressantes.
On n'avait pas dit le 9.
Mais il y a aussi le Festival des Lumières, pour rester dans les Lumières. Ils font aussi beaucoup appel à des bénévoles. Voilà.
D'accord.
Bon, en tout cas, si vous avez envie de travailler gratos pour la ville,
voilà.
Une perspective de carrière quand même intéressante, hein, simplement entre le 8 et le 11.
Surtout au niveau financier.
Il faut savoir donner de soi, quoi.
Voilà.
C'est important. Du coup, n'hésitez pas, on peut s'inscrire en ligne.
Oui, c'est ça. C'est...
Je ne sais pas si c'est la peine de lui donner l'adresse, finalement.
Donc, c'est http://www.lyon.fr, c'est efficace.
Au contraire, parce qu'il est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit de dire, mais on peut lancer un appel aux bénévoles. Allez-y, allez et troller la fête des Lumières. Ça, c'est totalement possible. Inscrivez-vous là-dessus, orientez les touristes dans toutes les directions où vous voulez, n'importe où. Envoyez-leur découvrir les vrais quartiers de Lyon, ils découvriront peut-être autre chose que ce magnifique artifice qui a fait des Lumières. Envoyez-leur voir les manifestations des FAF, envoyez-leur voir la guillotière, les quartiers sympathiques.
Est-ce qu'il y a une formation quand même qui est proposée pour...
J'ai pas réussi à savoir, j'ai appelé par déontologie journalistique, j'ai appelé le numéro de contact et je suis tombé sur un répondeur de tout le monde dehors.
Ah, moi j'ai essayé d'appeler le numéro vert pour la prévention de la radicalisation, mais... Ça n'a pas marché non plus.
Oui, une dernière petite information. À Lyon, boîte de nuit, le sucre fait du diabète.
Eh oui.
Donc, oui, la blague est bonne. Donc on a quatre...
Mais tant que ce Canu Info s'achève.
Rédigé non, hier chauffé, quand même, hein, la blague.
On a quatre jeunes personnes, enfin je dis jeunes, j'en sais rien, j'ai même pas lu l'article.
Merci pour ta sincérité, ta franchise, ton authenticité.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont fait une overdose. Comme son nom indique, une overdose, c'est la dose de trop. Donc on en profite pour passer un message à tous les drogués du monde entier. Hein. Prenez la bonne dose.
Enfin, ce qui s'est passé, donc, c'est que samedi soir, vraisemblablement, il y a dû avoir un fournisseur qui n'avait pas des produits très bien dosés. Et du coup, il y a eu quatre overdoses et pas mal de malaise. Hein, donc, ça a été d'ampleur, ce qui a provoqué la fermeture administrative du sucre jusqu'à nouvel ordre, a priori. Donc voilà, faites gaffe à ce que vous achetez en soirée, si vous achetez des choses, parce que vous ne pouvez pas les baser sur place.
Est-ce qu'il nous rappelle aussi que ces endroits-là, bien souvent, quand même, sont pas tout à fait transparents, à la fois sur les produits qui sont consommés chez eux, à la fois sur qui les vendent, et donc du coup, sur la difficulté qu'on a à tracer quand même les magouilles et les arts.
Allez, aïe, aïe, aïe.
En tout cas, il y a deux...
Sans transition, je vais vous... Sans réelle transition, parce que nous passons du sucre et des doses à Deleuze. Voilà. Mais moi, j'avais envie de vous partager quelque chose aujourd'hui. À l'heure où nos sociétés sont des sociétés de l'hyperinformation fliquée, où la surveillance est grandissante et va se fourrer dans tous les recoins, nul besoin, je le pense, de vous rappeler notre fameuse histoire à Radio Canu de la perquisition qui a eu lieu il y a quelques semaines pour une blague, et de la retenue à la frontière en Algérie d'un journaliste qui travaillait sur la Kabylie. Voilà, pression censurisante, sécurité sécuritaire. Moi, j'ai trouvé cette perle aujourd'hui, qui a approximativement le même âge que moi, presque 30 ans. Au passage, mon anniversaire, c'est le 20 janvier prochain, hein, ne l'oubliez pas. Voilà, j'ai trouvé ça sur Facebook. Preuve qu'il n'y circule pas que des insanités et qu'une spirale, et qu'il n'y circule pas non plus ces derniers jours qu'une spirale d'affolement post-Trump. Et oui, on a bien besoin de revenir à des basiques dans ces ambiances mortifères, de se rappeler de ce qui fait sens pour nous. J'ai envie de dire face à la mort, ou malgré, ou avec la mort et ses soldats. De se rappeler de ce qui soutient notre dynamique du vivant. Et Deleuze, en mars 1987, ça commence à dater, va vous dire quelques mots sur les 3 minutes qui nous restent, donc ça va être un petit peu showtime techniquement parlant. Il nous parle de l'art, et de l'art dans nos sociétés de contrôle, et de son étroite relation à l'acte de résistance, ou alors l'inverse.
Je me dis, voyez bien, avoir une idée, c'est pas de l'ordre de la communication, en tout cas. Et c'est à ça que je voudrais en venir, parce que ça fait partie des questions qui m'ont été très gentiment posées. Je veux dire à quel point tout ce dont on parle est irréductible à toute communication. Et c'est pas grave, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il me semble que... En un premier sens, on pourrait dire que la communication, c'est la transmission et la propagation d'une information. Or, une information, c'est quoi? C'est pas très compliqué, tout le monde le sait, une information, c'est un ensemble de mots d'ordre. Quand on vous informe, on vous dit ce que vous êtes censé devoir croire. En d'autres termes, informer, c'est faire circuler un mot d'ordre. Les déclarations de police sont dites à juste titre des communiqués. On nous communique de l'information, c'est-à-dire on nous dit ce que nous sommes censés être en état ou devoir croire, ce que nous sommes tenus de croire, ou même pas de croire, mais de faire comme si l'on croyait, puisqu'on ne nous demande pas de croire, on nous demande de nous comporter comme si nous le croyions. C'est ça l'information, la communication, et indépendamment de ces mots d'ordre et de la transmission de ces mots d'ordre, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'information. Ce qui revient à dire que l'information, c'est exactement le système du contrôle. Et c'est vrai, souvent, enfin, j'ai dit des platitudes, c'est évident. C'est évident, sauf que ça nous concerne particulièrement aujourd'hui. Ça nous concerne aujourd'hui parce que c'est vrai que nous entrons dans une société qu'on peut appeler une société de contrôle. Vous savez, un peu un âge de société, ce qui transforme la société en un libre, tu surprises. Et les sociétés disciplinaires avaient besoin de ça. Ça a un peu engendré des ambiguïtés chez certains lecteurs de Foucault, parce qu'on a cru que c'était la dernière discipline. Nous, c'était dit, mais nous prévivons pas. Nous entrons dans des sociétés de contrôle qui se définissent très différemment des disciplines. Nous n'avons plus besoin, ou plutôt, ceux qui veillent à notre bien n'ont plus besoin ou n'auront plus besoin de milieux d'enfermement.